Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Mistral et c'est l'heure des lecteurs sous les toits.
Bonjour.
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 Bienvenue aux lecteurs sous les toits. Vous n'êtes pas sans savoir que le festival littéraire des correspondances de Manosque s'est déroulé fin septembre. Le comité de lecture de la médiathèque de Manosque s'est occupé, comme les autres années, des apéros littéraires chaque jour à 11h devant la médiathèque. Cette année, nous avons reçu 6 auteurs et aujourd'hui, nous allons vous en parler, ainsi que d'autres auteurs que nos lecteurs ont particulièrement aimés.
Aujourd'hui, Sylvie, Alphonsine, David, Nathanaël et notre autre Sylvie nous accompagnent pour ces présentations.
Nous avons reçu le vendredi matin Hervé Letellier et Miguel Bonnefoy. Hervé Letellier est venu pour son livre « Toutes les familles heureuses » paru chez Lattès. Hervé Letellier, nous le connaissions déjà à Manosque, puisque l'an dernier, il était venu nous présenter le livre « Moi et François Mitterrand ». Un livre très 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 drôle. Depuis 1992, Hervé Letellier appartient au mouvement littéraire de l'Oulipo. Il a écrit déjà plusieurs romans, dont un dans la série Le Poulpe, qui s'appelait La disparition de Pérec. Il a écrit également Joconde jusqu'à 100. Alors, Joconde jusqu'à 100, c'était un hommage aux exercices de style de Raymond Queneau. Il est mathématicien de formation, il est journaliste, linguiste, éditeur. Et c'est lui qui écrivait, vous pouviez l'entendre, dans la lettre électronique du Monde, qui s'appelait Papier de verre. Il anime également, toujours, l'émission des Papous dans la tête, où l'on s'amuse avec les mots, sur France Culture. Alors l'auteur, dans le livre qui nous intéresse aujourd'hui, dans Toutes les familles heureuses, l'auteur raconte sa famille entre une mère folle, un beau-père insignifiant, un père absent, un grand-père aimant et tout le reste de la tribu avec un humour grinçant de lucidité.
L'extrait que nous allons vous lire s'intitule « Dialectique du monstre ». Alors pourquoi ? Parce que lorsque son père meurt, cela lui fait ni chaud ni froid. Et là, l'extrait plus précisément, c'est celui de la mort de son beau-père.
Ma mère et Guy formaient un cas rare de couple fusionnel sans amour. Jamais elle sans lui, jamais lui sans elle. Jamais ensemble.
Que Guy mourût ne lui faisait ni chaud ni froid, hormis la perspective d'une vraie solitude au quotidien, dans laquelle elle ne se projetait pas encore.
J'appris la mort de Guy quand j'étais à New York. Je réglais à distance les questions d'organisation, puis je rentrais pour l'enterrement.
C'est alors que je découvris que ma mère était folle.
Entendons-nous bien. J'ai toujours su que ma mère était folle, mais ce n'est pas maintenant que j'en parlerai.
Elle avait perdu contact avec la réalité depuis longtemps, mais son mari gérait avec tant d'ordre les choses du quotidien qu'il avait réussi à masquer l'évidence. Avec sa disparition, la folie maternelle prit la forme du burlesque.
La morgue était presque déserte, nous étions 5, peut-être 6.
Les hommes de la morgue sont ces messieurs des pompes funèbres en leur vocabulaire. Ma mère a le sien, plus immédiat. Il ne coïncide pas.
Alors que le corps avait été préparé, placé dans la soie du cercueil, l'un des hommes en noir se tourna vers ma mère et demanda avec douceur.
« Madame, voulez-vous que nous vous le présentions ?»«
Me le présenter ?» s'indigna ma mère. « Mais je le connais, c'est mon mari !»
L'employé avait dû en entendre d'autres et il entra dans les détails du protocole. Il voulait savoir si nous souhaitions que le cercueil restât entrouvert afin que, selon une tradition plutôt morbide, les proches puissent entrevoir une dernière fois le visage de l'être aimé. Mais il le formula ainsi.
Voulez-vous
que nous fassions une exposition ?
Une exposition de quoi ? Demanda ma mère d'une voix inquiète. Elle ajouta avec cette rationalité qui la rassurait. Il avait beaucoup de cravates.
L'employé la regarda sans comprendre. Puis vint le moment de visser le couvercle. De toute façon, il n'y avait personne. Nous allons fermer, madame.
Ma mère jeta un œil à sa montre. Vous fermez entre midi et deux, s'affola-t-elle.
J'ai ri et c'est alors que j'ai su que j'étais un monstre.
Voilà, tout le roman est de sur cette tonalité-là. Il s'amuse de choses douloureuses. Et voilà, c'est un livre qu'on a beaucoup aimé, qui s'appelle donc Toutes les familles heureuses d'Hervé Le Tellier.
Alors, nous avons reçu Miguel Bonnefoy pour Sucre Noir, édité chez Rivage. Alors, à Manosque, on connaît très bien Miguel Bonnefoy parce qu'on l'avait accueilli lors des apéros littéraires de 2015 pour Le Voyage d'Octavio. Et c'est un roman qui avait été finaliste au Goncourt du premier roman. Puis, nous avions tellement accroché avec ce jeune auteur qui est franco-vénézuélien que nous l'avons reçu dans le cadre du comité de lecture pour Jungle, qui était le récit d'une expédition dans la jungle vénézuélienne en 2016. Et ici, son roman s'ouvre sur une scène surréaliste. Le navire du capitaine flibustier Henry Morgan s'est échoué sur la canopée de la jungle vénézuélienne. Tout l'équipage périt et le trésor contenu dans le bateau est englouti dans la forêt. Trois siècles plus tard, des chercheurs d'or essaieront de retrouver ce trésor.
Le jour se leva sur un navire naufragé, planté sur la cime des arbres au milieu d'une forêt. C'était un trois-mâts de 18 canons à voile carrée, dont la poupe s'était enfoncée dans un manguier à plusieurs mètres de hauteur. À tribord, des fruits pendaient entre les cordages. À bâbord, d'épaisses broussailles recouvraient la coque.
Tout était sec, si bien qu'il ne restait de la mer qu'un peu de sel entre les planches. Il n'y avait pas de vagues, pas de marées. D'aussi loin que s'étendait le regard, on ne voyait que des collines. Parfois, une brise passait chargée d'un parfum d'amande sèche, et l'on sentait craquer tout le corps du navire, depuis la hune jusqu'à la cale, comme un vieux trésor qu'on enterre.
Cela faisait plusieurs jours que l'équipage survivait, difficilement, à bord. On y trouvait des officiers sans bannière, des bagnards borgnes, des esclaves noirs qui, les dents cassées par la crosse d'un fusil, avaient été enchaînés sur la côte du Sénégal et achetés sur un marché londonien. Pendant des heures, ils se tenaient au bastingage, les coudes appuyés sur une mousse humide et scrutaient l'horizon en cherchant l'océan.
Henry Morgan dormait dans une petite alcôve construite sous le pont, sans porte, que fermait un rideau fixé à des crochets. Le navire était sous ses ordres, mais depuis qu'il avait fait naufrage, personne ne l'avait vu sortir de sa retraite.
Le second poussa le rideau et entra dans une pièce au plafond bas. Pour avancer, il dut s'ouvrir le passage à la machette. Toutes sortes de fleurs tropicales poussaient à travers les écoutilles. Une verdure épaisse avait envahi les poutres. Des feuillages entouraient les armoires en citronnier et les meubles lourds, verts de fougère, craquaient vaguement dans l'ombre.
L'espace était rempli de curiosités lointaines, objets de pillage qui servaient de monnaie d'échange dans les ports étrangers. Sur une table s'entassaient des quintaux de clous de girofle venus des Moluques, de l'ivoire de Siam, du cachemire du Bengale et du bois de santal du Timor. Tout sentait le poivre de Malabar conservé dans de la porcelaine.
Au centre de la pièce, des cassettes étaient ouvertes sur une table avec des compas et des bréviaires en peau de lézard sur lesquels reposaient de l'huile de ricin et du rhum de Cayenne. Ici et là, on distinguait de vieilles cartes maritimes avec des légendes latines reliées et dorées à Venise. Et au milieu, un coffre en chêne bardé de lambeaux de fer scellé de 12 clous d'argent qui laissait voir à l'intérieur des centaines d'écus, de louis, de croix et de calices, de morocotas, plusieurs poignées de sabre, le col d'une jarre étrusque et les cornes d'or de Galéus.
Personne, hormis le second, ne soupçonnait que dans les flancs du navire, où empestait la misère, la faim, la viande pourrie, le biscuit immangeable, un trésor dormait en silence, sous les planches terreuses, comme un ange au fond d'une boge.
un marin entra, ballotté par le va-et-vient. « Capitaine, la quille vient de casser !» il ajouta. « L'étrave est éventrée, la carène fendue, le navire s'effrite comme un morceau de sucre, l'orage approche à grands pas » continua-t-il essoufflé. « Le navire ne tiendra pas une autre tempête !»
Partout, les planches se brisaient, les arbres ne supportaient plus la coque. Le marin qui se tenait près du lit regarda le coffre que serrait Henry Morgan dans ses bras.
« Capitaine, l'heure est lourde, permettez que je vous aide !»
Il tendait la main quand Henry Morgan lui cracha des grumeaux de sang au visage. Un rire de malice lui déforma les lèvres. « Je l'emporte avec moi, dit-il. La mort doit bien avoir un prix. »
Donc on vous ne lira pas la suite, ce sera à vous de découvrir quand 3 siècles plus tard, les chercheurs d'or viendront essayer de trouver ce trésor et qu'on verra que peut-être le trésor n'est pas forcément dans l'or. Donc c'était Miguel Bonnefoy, Sucre noir, paru aux éditions Rivage. Vendredi matin, nous avons reçu Alice Zeniter pour son roman L'art de perdre, paru chez Flammarion. Alice Zeniter, nous la connaissons bien à Manosque, car elle est venue en résidence d'auteur en 2013, où nous l'avions reçue au comité de lecture pour Sombre Dimanche, et où elle avait été visiter le musée d'ongles avec Nathanaël, le musée des Harkis, parce que son livre parle de Harkis. Alphonsine va vous le présenter.
L'art de perdre, par Alice Zeniter, paru en 2017. C'est une saga familiale qui se déroule sur 3 générations, depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui. C'est un récit historique également, puisqu'il se déroule pendant la guerre d'Algérie, et à Alger au départ, et la lumière se fait donc sur ce sujet tabou. Il y a 3 personnages principaux, Ali, Hamid et Naïma. Le livre se découpe en 3 chapitres, pareil, bien scindé. Ali, qui fait une fortune dans sa Kabylie natale, et pour protéger les siens, il va intégrer l'armée et devient harki. Ensuite, c'est les événements donc d'Alger, en Algérie, c'est la fuite vers la France, et on arrive dans les camps, la vie difficile, avec les enfants et la femme d'Ali, bien sûr. On est à Rivesaltes, on est à Jouk, et là, c'est l'aberration du mot, parce que Harki, en fait, c'est un mot kabyle qui veut dire arka, et il a été déformé, donc c'est qui veut dire avance, alors que là, ils sont prisonniers dans ces camps, pas de chauffage, pas d'eau, ou très peu, le froid, le vent, sont dans des camps, des tentes. Et la troisième partie, c'est la difficulté de l'intégration pour la 3e génération, incarnée par Naïma. C'est un récit authentique, qui est riche, poignant, très bien documenté, de manière historique, qui ne laisse pas les lecteurs indifférents. Pour moi, il est très dense et d'une écriture superbe. Je vous lis 2 petits passages. À défaut d'avoir un métier stable, Ali fait un peu de tout. Il est une sorte de paysan ambulant, de paysan volant. Et l'argent qu'il rapporte, joint à celui que gagne son père, parvient à nourrir la famille. Ali réussit même à amasser le petit pécule nécessaire pour se marier. Quand il a 19 ans, il épouse une de ses cousines, une adolescente au beau visage mélancolique. Cette union lui donne 2 filles. C'est bien dommage, commande sévèrement la famille au chevet de la couchée, qui en meurt de honte. La maison où il n'y a plus de mère, dit le proverbe kabyle, même quand la lampe est allumée, il y fait nuit. Le jeune Ali supporte la nuit comme il supporte la pauvreté, en se disant que c'est écrit et que pour Dieu qui voit tout, cette existence a un sens supérieur aux fragments de chagrin qu'elle ne cesse d'apporter. Au début des années 1940, le fragile équilibre économique du foyer s'écroule. Lorsque le père d'Ali meurt d'une chute dans les rochers en tentant de rattraper une chèvre fugueuse. Ali s'engage alors dans l'armée française qui renaît de ses cendres et se mêle au bataillon des Alliés lancé à la reconquête de l'Europe. Il a 22 ans. Il laisse sa mère s'occuper de ses frères et sœurs ainsi que de ses deux petites filles. Un autre petit passage. Le visage d'Ali, surtout, est d'une rondeur presque parfaite. C'est une lune. Si tu as de l'argent, montre-le. C'est ce qu'on dit ici, en haut comme en bas de la montagne. C'est un commandement étrange, parce qu'il exige que l'on dépense toujours l'argent pour pouvoir l'exhiber. En montrant qu'on est riche, on le devient moins. Ni Ali, ni ses frères ne penseraient à mettre de l'argent de côté pour le faire fructifier, ou pour les générations à venir. Pas même pour les coups durs. L'argent se dépense dès qu'on l'a. Il devient bajoux luisante, ventre rond, étoffe chamarrée, bijoux dont l'épaisseur et le poids fascinent les Européennes, qui les exposent dans des vitrines sans jamais les porter. L'argent n'est rien en soi. Il est tout dès qu'il se transforme en une accumulation d'objets. Voilà, c'était...
Maintenant, nous allons lire un petit passage où Ali donc qui est dans un camp de Ajouk, donc près de chez nous, hein, va rentrer dans un café.
Voilà. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'histoire de la narratrice, puisqu'il y a beaucoup d'autobiographies malgré tout, même si c'est romancé, et réellement, ses grands-parents étaient à Jouk, ce que l'on appelait le logis d'âne, qui était pas très loin, c'est quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui, mais qui était pas très loin du barrage électrique EDF. Voilà. Donc si vous voulez à peu près le situer, voilà, le logis d'âne était de ce côté-là, sur la nationale. Donc, très loin de tout, très loin de Jouk. Et le grand-père, Ali, eh bien, il en a marre de ce camp un petit peu retranché, et donc, il veut aller boire une bière à Jouk.
Début juillet 63, Ali entre dans un bar et s'assied au comptoir. C'est la première fois qu'il vient là, et l'établissement est plutôt sale. Même la lumière paraît poisseuse. Mais cette crasse sombre lui fait du bien après l'aveuglant soleil du dehors qui lui a cassé la tête tout le temps qu'a duré la marche.
Une bière.
C'est ce que lui pense, dire du moins. Mais aux oreilles du passeron, ça sonne comme « une bière » et ça l'irrite. La blessure fantôme lui déplaît, comme si elle s'accomplissait même à son oreille. En charcutant les conduits, il hausse nerveusement les épaules et ne répond pas. Quand Ali racontera ensuite cette histoire, il dira que l'homme avait décidé de ne pas le servir dès qu'il avait vu passer la porte. Mais ce n'est peut-être pas si simple. Le cafetier lutte contre la colère qui l'envahit. Il voudrait pouvoir la contrôler ou même ne pas la ressentir du tout.
Une bière, répète Ali sans hausser la voix.
Ses yeux déjà peinés achèvent de mettre hors de lui le tenancier. Des yeux de victime qui l'obligent à devenir bourreau avant même qu'il ait fait quoi que ce soit, le prive de sa liberté d'agir. Des yeux qui ont l'air d'avoir accumulé toute la souffrance du monde. Et puis ces putains de médailles sur sa poitrine, il n'arrive pas à y croire. Le type a mis sa parure d'ancien combattant. C'est sa défense contre les Français, son mot d'excuse rédigé par la mère République. Je ne sers pas les couilles.
La phrase s'échappe entre ses dents. Jusqu'à la dernière seconde, il ne savait pas qu'il allait la dire. Mais maintenant qu'elle est sortie, il ne peut plus la rattraper. Alors au contraire, il s'entête, il la répète plus fort.
Tu m'as compris ? Je serre pas les couilles.
Au village, Ali l'aurait frappé et on lui aurait donné raison. Ici, il sent ses 2 mètres qui se recroquevillent sur le tabouret, sa force qui se dérobe, le sang qui se change en eau et les jambes comme des collants de nylon sur un fil à linge qui ne sont plus qu'une vague forme de jambes inutiles et grotesques.
Très bien, murmure-t-il. Pas de bière, je vais juste me reposer un peu.
Tu es demeuré ou quoi ? Tu sors tout de suite.
Non, non, dit Ali tout doucement. Je sors pas.
J'y sors pas, hurle l'autre derrière le comptoir. Son visage est devenu rouge brique. Mais tu t'es cru où ? Tu te crois chez toi, sale bougnoule ? J'appelle la police.
Alors qu'il fait les quelques pas qui le séparent du téléphone, il prie intérieurement pour qu'Ali soit raisonnable et qu'il sorte, ou au moins qu'il esquisse un geste vers la sortie. Il ne veut pas avoir décroché le téléphone. Il ne veut pas avoir justifié sa fureur à une tierce personne. C'est déjà assez difficile de se persuader lui-même qu'il a raison. Mais Ali ne bouge pas.
Son grand corps de crouille courbé sur le tabouret, il ne touche pas le comptoir. Il a retiré ses mains. Il ne veut pas être en tort ni provoqué. Il veut simplement qu'on ne le mette pas à la porte. Il est persuadé que c'est son droit. Il attend le policier municipal muré dans un silence qu'il espère digne, et le tenancier de l'autre côté du comptoir fait pareil.
Nul ne sait plus aujourd'hui à quoi ressemblait l'agent qui pousse la porte du bar. Une fois qu'on lui a expliqué la situation, le policier renifle et se gratte le long de l'arête du nez. Puis, il se place face à Ali, toujours immobile sur son tabouret. Ali qui essaie de sourire pour montrer sa bienveillance. Mais l'agent ne remarque pas le sourire. Il baisse les yeux. Est-ce qu'il veut éviter le regard d'Ali? Est-ce qu'il a honte? Est-ce qu'il s'apprête à le frapper? Ali regrette d'être resté. Et puis le policier relève la tête et lance. Il a 7 kilos de ferraille sur la poitrine et toi tu ne lui sers pas à boire?
Le patron du bar rougit, mais persiste dans son attitude hargneuse. Il est trop tard maintenant pour qu'il fasse volte-face. Les gens que l'on prend pour des salauds, souvent, sont des timides qui n'osent pas demander qu'on recommence à zéro. Il n'y a rien qui me garantisse qu'elle soit à lui, ces médailles.
Le policier hausse les épaules. L'argument est si faible qu'il ne mérite même pas de réponse. Ça vient d'où ? Demande-t-il en montrant l'une des décorations.
Monte Cassino, répond Ali dans un murmure.
Il n'a pas prononcé ce nom depuis près de 20 ans. Il croyait qu'il ne le dirait plus jamais. Et soudain, le flic tape du poing sur le comptoir très fort. « Maintenant » crie-t-il à l'adresse du patron qui n'a pas pu retenir un sursaut. « Tu nous donnes 2 bières, maintenant !» Puis se tournant vers Ali, j'y étais aussi. Et avant que l'homme montagne ait pu faire un geste, le policier lui tombe dans les bras. « Monte Cassino, merde !»
Pendant un bref moment, le café-bar de Jouk devient pour Ali un lieu amical et accueillant. Il se sent comme à l'association, protégé par la communauté des souvenirs. Le policier et lui boivent leur bière en souriant, ému au point de sentir qu'il pourrait pleurer.
Mais quand il quitte le bar, Ali croise le regard haineux du patron et il sait qu'il ne reviendra jamais ici. D'un dernier coup d'œil, il dit adieu au tabouret haut, au comptoir, à l'odeur de métal et de graisse, aux affiches du Tour de France et sur les murs, et aux souvenirs de Monte Cassino.
Donc voilà, des petits extraits pour vous donner envie de continuer la lecture de ce superbe livre d'Alice Zeniter, qui est pour une part autobiographique, enfin par rapport à sa famille.
Et par rapport à elle, à sa redécouverte de l'algérie, puisque le roman en fait découpé en trois, il y a l'histoire du grand-père, de comment il devient Harki un peu malgré lui, du père, Hamid, donc le papa de Naïma, l'héroïne, qui on montre comment il va arriver à s'intégrer, et à s'intégrer fort bien, puis l'histoire de Naïma, qui du coup a été coupée de cette histoire de Harki, de ses origines, qui ne sait pas parler la langue de sa grand-mère, et qui va retourner en Algérie. Et on ne vous dit pas ce qu'elle y découvrira.
Alors, le livre d'Alice Zeniter, donc L'Art de perdre, est en bonne lice pour le prix Goncourt. Donc, on espère de tous nos voeux qu'elle va gagner, parce que ce serait une vraie satisfaction pour nous aussi qu'il l'avons reçu à Manosque. Donc, c'est Alice Zeniter, L'Art de perdre, paru chez Flammarion.
Alors, nous allons vous présenter avec Sylvie « Marx et la poupée » de Maria Majidi, édité dans une petite maison d'édition, le Nouvel Attila. Alors, on est très content d'avoir reçu Maria Majidi parce que le Nouvel Attila et donc son éditeur, Benoît Viro, nous avait confié l'année dernière le manuscrit du texte de Maria Majidi au comité de lecture, afin que nous puissions faire des corrections, des remarques sur ce que nous pensions sur ce manuscrit. Puis, il a édité, et cette jeune auteure a reçu le prix Goncourt du premier roman. Et cette année, donc, nous l'avons reçu pour ce roman que nous avions eu donc à l'état de manuscrit. Et cette rencontre a été extrêmement féconde, extrêmement belle, parce que du coup, dans son livre, on a vu tout ce qui avait changé. Alors c'est peut-être un peu orgueilleux de penser que nous avons pu influer sur l'écriture, mais néanmoins, on a pu voir les différences entre le manuscrit qui nous avait été confié l'année dernière par Benoît Viraud et le roman tel qu'il est sorti aujourd'hui.
Alors le manuscrit ne s'appelait pas Marx et la poupée, le manuscrit s'appelait « Comment peut-on être persan ?» Donc nous allons vous lire le début du livre. Nous sommes en Iran. Et c'est un passage assez dramatique que nous allons vous lire.
Oui, dans son roman, en fait, Maria Majidi nous offre une suite de courts récits sur la vie de la narratrice. Elle est donc née en Iran, de parents étudiants opposants au régime. Puis elles vont s'exiler en France. Myriam, lors de cet exil, aura 5 ans. Et en effet, comme le disait Sylvie, le tout début est assez dramatique, car la maman est opposante au régime des Mollahs. Il était une fois le ventre de la mère.
Une fille pousse dans le ventre d'une femme.
Non, tu n'iras pas manifester. T'es une femme et c'est dangereux.
Son frère aîné vient de lui flanquer une grosse gifle. Elle ne dit rien, mais elle plante son regard noir de femme obstinée dans ses yeux et elle part lever fièrement le poing dans la rue et mêler sa voix à la voix de la foule en colère. Elle recevra bien des gifles encore et des insultes aussi, mais rien ne peut l'arrêter à 20 ans, ni les gifles du frère, ni sa grossesse, ni même la peur d'être tuée.
1980, Université de Téhéran.
Un nuage de fumée au loin, des coups de feu, des cris. J'ai peur, je sens le danger et je me recroqueville un peu plus au fond du ventre, mais ce ventre va vers la mort, poussé par une force irrépressible. La jeune mère court dans les couloirs d'université. Elle manque de tomber. Elle a failli glisser sur une flaque de sang dont la trace mène jusqu'à une salle de cours, d'où sortent des hurlements déchirants.
Elle s'approche et regarde. À travers la porte entrouverte, elle voit une jeune fille allongée sur une table. Un homme tente de la violer. À côté d'elle, par terre, un jeune homme à qui on brise le crâne à coups de bâton. Elle met la main sur sa bouche pour étouffer un cri d'épouvante.
Elle est affolée et ses jambes tremblent.
Des feuilles volent partout.
Des feuilles de cours.
Des fiches d'inscription.
Des dossiers.
Les pages des livres sont déchirées.
Des étagères entières sont renversées.
Des mains fouillent dans les tiroirs.
Des bouches hurlent.
Les voiles des femmes sont piétinées.
Des mains arrachent leurs cheveux.
Les femmes sont traînées par terre.
Elles se débattent comme elles peuvent et les hommes qui les traînent les traitent de sales putes.
Ces hommes ont les yeux injectés de sang et brandissent des bâtons plantés de clous.
Ils hurlent à la Akbar.
Le bruit d'un crâne qu'on brise.
Elle court toujours mais ne parvient pas à trouver la sortie.
Elle voit des jeunes tomber par terre.
Elle entend des cris.
Ses oreilles saignent.
Elle voudrait disparaître.
Devenir aussi petite qu'une fourmi.
Et se faufiler dans un coin avec son bébé.
Son bébé.
Soudain, elle prend conscience qu'elle est enceinte.
Ma mère porte ma vie, mais la mort danse autour d'elle en ricanant. Le dos courbé, ses longs bras squelettiques veulent lui arracher son enfant. Sa bouche édentée s'approche de la jeune femme enceinte pour l'engloutir.
Deux hommes l'ont vue, au bout de leurs bras pendent des bâtons cloutés. Ils avancent vers elle, une fenêtre est ouverte.
Enceinte d'un bébé de 7 mois, elle doit sauter du second étage. Hésite, se retourne et son regard se fixe sur ses bâtons. Elle sent déjà les clous s'enfoncer dans sa chair.
Elle saute et je tombe.
Tu es suspendue en l'air et c'est moi qui tombe.
Je tombe et ton ventre se creuse. Je me tapis jusqu'à disparaître.
Je tombe et tu m'abandonnes dans ce ventre suspendu dans le vide.
Tu me jettes hors de toi. Mon premier abandon, ma première blessure d'amour.
Ange sans aile, ma folle, irresponsable, ma douce assassine. À cet instant-là, tu as creusé un trou en moi dans lequel toutes les angoisses de ma vie future prendront racine.
Tu tombes et je meurs le temps d'une seconde dans ton ventre devenu tombeau.
La mère étendue sur le sol. Incapable de bouger, une douleur vive dans la jambe. La tête tournée vers le ciel, les yeux grands ouverts, elle fixe les nuages blancs.
Elle reconnaît dans un nuage la forme d'une tête de cheval. Sa vue se trouble, sa tête est lourde. Juste avant de plonger dans un profond sommeil, elle pose ses mains sur son ventre.
Le bébé bouge.
Voilà, donc ça c'est vraiment le tout début du roman de Maryam Majidi, Marx et la poupée. Et je vous conseille de le lire parce que franchement c'est un très 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 beau livre qui nous apprend beaucoup sur l'Iran, sur l'exil, sur la langue française. C'est vraiment un superbe roman.
Oui, puisque la petite fille qui arrive donc à 5 ans en France va devoir s'approprier la langue française et du coup il y a un dilemme, un déchirement entre l'Iran, la langue iranienne qui est donc ta langue maternelle, qui est le persan, qui est rattaché à son passé, et sa nouvelle langue de ce pays dans lequel elle doit s'intégrer.
Alors c'était « Marx et la poupée » de Mariam Majidi, paru au Nouvel Attila.
Nous allons vous présenter donc avec Sylvie Jean-Marie Blas de Robles dans L'épaisseur de la chair. Cet auteur, Jean-Marie Blas de Robles, avait déjà été invité aux correspondances en 2008 pour son livre Là où les tigres sont chez eux, qui avait reçu le prix Médicis. Et il était revenu également pour L'île du Point Nemo, qui avait eu le prix du jury Jean Giono. Il est philosophe, historien, prof de littérature française et archéologue, mais une archéologie particulière puisqu'il pratique l'archéologie sous-marine. Donc quelqu'un qui a plein de cordes à son arc. Dans L'épaisseur de la chair, Jean-Marie Blas de Robles nous plonge dans l'histoire de sa famille, pied noir d'origine espagnole, et on va aller de la fin du 19e en Algérie à la France d'aujourd'hui, en passant aussi également par l'Espagne, et surtout, il va nous livrer une fresque de l'Algérie d'avant l'indépendance. À la suite d'une dispute, le narrateur part en mer et tombe à l'eau, et dans cette situation tragicomique, il se remémore l'épopée paternelle et également sa propre histoire. L'extrait que Sylvie va nous lire, eh bien, c'est celui du départ. Les bombes ont commencé à tomber, enfin je veux dire, il y a déjà énormément d'attentats à Alger et il est bientôt plus possible pour la famille de rester en Algérie. Ils vont devoir partir et Sylvie va nous lire l'extrait où la famille est obligée de partir. Et, voilà.
Et puis c'est le départ à 5h du matin. Les légionnaires au regard noir, la longue file de camions de blindés qui s'étire sur la route, d'autres familles à garde, d'autres enfants à moitié endormis, une seule et même stupeur douloureuse, bouleversante, à constater que l'inimaginable advient. Lorsque nous arrivons à la Seigna, il fait grand jour, le soleil cogne, le vent soulève des tourbillons de poussière entre les hangars. Une foule énorme est parquée derrière le grillage qui entoure l'aérodrome, les gardes mobiles contrôlent l'entrée, fouillent les arrivants, s'énervent. Il n'y a pas d'avion, il faut prendre un numéro là-bas et attendre qu'on l'appelle. Pas de photos, pas de caméra, c'est interdit. Si on vous attrape, on arrache les pellicules. Non, pas à l'intérieur, il n'y a plus de place. Pour manger, débrouillez-vous, rien n'est prévu, c'est submergé. Voyez bien que c'est la panique. Mon père nous laisse assis par terre à l'ombre des buissons. Nous sommes agglutinés à d'autres familles, inquiètes au milieu d'un fatras de bagages. On entend des hurlements, des vociférations. Par les trous du brillage, de jeunes Arabes proposent de petits pains. Ma mère se lève, ouvre son porte-monnaie. « N'en achetez pas, madame, on dit qu'ils sont empoisonnés. » Elle se rassoit. Derrière les vendeurs, un adulte en djellaba nous observe en souriant. Chaque fois qu'on capte un regard, il montre de quelle façon il va nous égorger. Mon père revient. Il a récupéré un numéro. Mais comme l'attente risque d'être longue, il nous emmène dans un autre endroit, du côté de l'hippodrome, dans une écurie où nous nous installons tous les cinq sur la paille. De temps à autre, une caravelle atterrit et enfièvre le camp. Les gens crient, se ruent sur le tarmac, les gardes mobiles interviennent, repoussent la foule, la canalisent derrière les barrières. Puis un haut-parleur se met à cracher des numéros. Ceux qui ont gagné à cette horrible loterie s'affolent, courent vers la piste, entraînent enfants et vieillards dans leur fuite. Et quand l'avion repart, il y a des valises ouvertes sur le sol, des baluchons, des poussettes, des cages, des canards, y abandonnés. Et 3 jours et 3 nuits de cette horreur recommencée. Et puis c'est notre tour. Nous marchons jusqu'à la passerelle, et tandis que nos valises disparaissent sur la soute, mon père nous serre longuement entre ses bras. Il pleure à chaudes larmes, bafouille des mots d'amour. Encore une chose que je n'avais pas comprise, mais celle-là est plus abominable que toutes les autres. Il ne vient pas avec nous. Son travail à l'hôpital, des choses à faire pour essayer de sauver les meubles, il nous rejoint très vite, promis, juré. Il faut que je sois fort. C'est toi, dorénavant, l'homme de la maison. Je te confie ta mère et tes sœurs. Veille sur elles. Fais honneur à ta famille, fais honneur à notre nom. » Un dernier signe de la main et je me suis retournée pour entrer dans l'avion. Les mots seuls ne parviennent pas à dire les choses, mais il y a des combinaisons possibles, je le sais, qui permettent au moins d'en effleurer le cœur. Comment trouver la bonne pour dire cette pleine conscience alors, d'avoir vieilli d'un coup, d'être devenue, à 8 ans et à jamais, ce que je suis.
Donc c'était le livre de Blaise de Reblès, Jean-Marie Blaise de Reblès, Dans l'épaisseur de la chair, paru chez Ulma. Nous avons reçu Marie-Hélène Lafont pour le livre « Nos vies » paru chez Buchet-Castel le dimanche matin, en même temps que Jean-Marie Blaise de Reblès. Donc Marie-Hélène Lafont, c'est une universitaire. Nous l'avions déjà reçue aux apéros littéraires des correspondances en 2014 pour son roman « Joseph » qui se passait à la campagne. Aujourd'hui, elle était venue aussi aux correspondances 2009 pour l'annonce. Et elle est professeure de lettres classiques et évidemment écrivain. Et de nombreux prix ont couronné son œuvre. Elle a eu en 2016 le prix Goncourt de la Nouvelle pour Histoire. Aujourd'hui, il y a 3 semaines, elle est venue nous voir pour ce livre Nos vies, qui pour une fois ne se déroule pas à la campagne, mais à Paris. Elle invente des vies à des personnages rencontrés au Franprix de son quartier, tout en racontant la sienne. Quand je dis elle, c'est la narratrice. Donc nous allons vous lire le début du livre où la narratrice décrit Gordana, qui est caissière au Franprix de son quartier.
Elle s'appelle Gordana. Elle est blonde.
Le cou de Gordana est long, crémeux, solide, charnu. Ce cou, habité de forces impérieuses, la plante dans la vie comme un arbre en terre. Les pulls sommaires de Gordana, en colure ronde ou en V, dégagent son cou, pièce maîtresse d'un corps qui ne manque pas d'atouts canoniques.
Les cuisses sont longues, minces, galbées, d'un G de rue. Elles reposent à plat, moulées dans le jean, posées l'une à côté de l'autre, en immuable oblation. Gordana ne croise pas les jambes. La position deviendrait intenable. Elle se tient droite, la blouse courte rouge, gancée de blanc, ouverte sur ses cuisses efficaces.
Et que dire des seins ?
La blouse fermée ne suffirait pas.
Ils abondent.
Ils échappent à l'entendement.
Ni chaste, ni turgescent.
On ne saurait ni les qualifier,
ni les contenir,
ni les résumer.
Les seins de Gordana ne pardonnent pas. Ils dépassent la mesure, franchissent les limites, ne nous épargnent pas, ne nous épargnent rien, ne ménagent personne, heurtent les sensibilités des spectateurs, sèment la zizanie.
N'ont aucun respect, ni aucune éducation.
Ils ne souffrent ni dissidence, ni résistance.
Ils vous ôtent toute contenance.
On se tient devant eux.
On voudrait penser aux produits.
Faire les gestes dans l'ordre.
Sortir, déposer, ranger.
Vider, remplir.
La carte, le code.
On s'efforce.
On se rassemble.
On réplique.
Tous, plus ou moins, femmes et hommes, vieux et jeunes et moyen-âgés.
Mais ça traverse, ça suinte.
C'est organique.
C'est une lueur tenace et nacrée qui sourdrait à travers le tissu.
Émanerait envers et contre tout de cette chair inouïe.
Inimaginable et parfaitement tiède.
Opalescente et suave.
Douce et moelleuse.
On aimerait se recueillir.
On fermerait les yeux.
On joindrait les mains.
On déviderait des litanies éperdues.
On humerait des saveurs.
Des goûts, des grains, des consistances.
Des fragrances ténues ou lancinantes.
On y perdrait son latin et le sens commun.
Les seins de Gordana jaillissent, considérables et sûrs.
Dardés.
C'est un dur giron de femme, jeune et cuirassé.
Voilà, donc ça c'était... Le livre de Marie-Hélène Lafont, comme toute son œuvre, est empreinte quand même de beaucoup d'humour. Et voilà, cette description des seins de Gordana nous a beaucoup plu et amusé. Donc elle mêle des livres, elle a une langue très très belle, très très riche, et voilà, c'est un livre qui est plein de rencontres humaines aussi. C'est Nos vies, de Marie-Hélène Lafont, paru chez Buchet Castel.
Je vais vous présenter Les buveurs de lumière par Jenny Fagan. Il est traduit de l'anglais par Céline Schwaller, je pense que c'est bien, publié en 2017 aux éditions Métellier. On est en 2020 et une ère glaciaire s'annonce. Dylan, l'auteur, le principal acteur de ce livre, vivait à Soho dans un cinéma et il débarque en Écosse pour disperser les cendres de sa mère et de sa grand-mère qui meurent presque en même temps. Sa grand-mère lui laisse une caravane en héritage à Clashanfield, donc en Écosse, au nord de l'Écosse, au pied des montagnes. L'hiver s'annonce avec des chutes de neige importantes et des températures qui voisinent les moins 30, les moins 40, et les jours qui baissent avec les habitants du parc des caravanes qui sont très spéciaux et décalés. Dylan va rapidement devenir l'ami d'un jeune garçon qui devient fille, Estella. Elle s'appelle Stella. Et il va tomber également amoureux de Constance, la mère de Stella. Donc on assiste à ce changement climatique avec l'iceberg qui descend du pôle, la neige qui tombe en abondance, et les températures, comme je vous disais, qui ne cessent de diminuer jusqu'à moins 70. Et en parallèle, il y a une histoire familiale qui se greffe là-dessus. Dylan trouve un journal de sa grand-mère, des secrets familiaux qui ne sont jamais éclaircis et qui va commencer à découvrir au fur et à mesure. Et en même temps, il y a ces buveurs de lumière, donc c'est une légende qui accumule la lumière le plus possible avec l'annonce de ces nuits polaires presque. Donc ce livre est assez spécial, mais c'est une belle écriture malgré tout. Et bah, je vous le conseille pour découvrir quand même quelque chose de particulier. Donc c'était de Jenny Fagan, Les buveurs de lumière.
Sylvie va nous présenter de Chantal Thomas, Souvenirs de la marée basse, et on reste dans des histoires familiales.
Donc c'est Les souvenirs de Chantal, ou Comment nager peut sauver une vie. Donc c'est Jackie nage, Chantal nage. La fille Chantal évoque l'effet de la nage sur sa mère dépressive. Et donc là, la mère se découvre avec deux visages, celui où elle est très sombre, dépressive, et le visage lumineux quand elle vient de nager. Donc un très beau moment de lecture. Voilà.
Va nous présenter de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne.
Oui, je vais vous donner quelques impressions sur ce livre que j'ai lu, que je n'ai pas encore tout à fait terminé parce qu'il est prenant. Il s'agit pour l'histoire, d'un écrivain qui est en train d'écrire un scénario pour un film sur Herman Melville. Il n'arrête pas d'écrire sur ce scénario. Il ne peut pas s'en défaire. Ça se passe à Paris, mais ça ne se passera pas qu'à Paris. Il y aura aussi d'autres lieux, New York, Colmar, l'Italie, etc. C'est un livre cinématographique, je dirais. Et le cinéma est présent du début à la fin. Il habite un appartement, il a un voisin qui lui propose de regarder ses DVD en projection sur un vrai écran. En échange, il faut qu'il s'occupe aussi de son chien, qui est un dalmatien, un gros chien. Et il se prend aussi, au cours du roman, il se prend d'affection pour ce chien. Il y aura encore des péripéties où il va perdre le chien. Enfin, c'est un récit qui est foisonnant, qui est une très belle littérature et qui, j'allais dire, ruisselle aussi d'alcool et de sexe aussi à certains moments. Et donc, on commence ce livre et on ne peut le quitter jusqu'à la fin. Donc, je ne raconterai pas la fin. C'est le... Voilà. Et donc, cet homme n'a pas de nom, on ne connaît pas son prénom, peu importe. Il est passionné de cinéma et il est passionné de cinéma et donc il veut vendre son scénario. Il rencontre un producteur qui lui donne le téléphone de Michael Cimino, qui était un grand réalisateur 25 ans auparavant, mais qui est complètement oublié. Il réussit à prendre contact avec Michael Cimino. Il va à New York pour une journée. C'est pour ça que ce récit est quand même assez étonnant, parce que il y a des choses comme ça qui se passent, qui sont à la limite surréalistes, et c'est peut-être ce qui fait aussi son charme. Alors, pour parler de l'auteur Yannick Hennel, il a écrit d'autres livres, beaucoup d'autres livres aussi du théâtre. Il a écrit en particulier un autre livre qui est d'une toute autre tonalité, Yann Karski, ça se passe, c'est plutôt du côté historique et tragique. Ça parle des camps de concentration en Pologne et ça parle d'une rencontre aussi qu'il a essayé d'avoir avec le président des États-Unis, Roosevelt. Il a écrit aussi un autre livre qui s'appelle La rue des renards pâles et c'est une relation sur le monde des SDF à Paris. Il vit lui-même dans sa voiture pendant un certain temps. Voilà. Donc je termine sur ce livre. Je ne vous en lirai pas des passages parce que je n'ai pas eu le temps de les sélectionner. Mais c'est un livre qui vous accroche, qui vous tient, je le répète, et dont je conseille la lecture et jusqu'au bout. Moi, je n'ai pas encore terminé. Je m'attends encore à quelque chose d'autre. Voilà. Tiens ferme ta couronne de Yannick Hennel chez Gallimard.
Nous allons vous présenter le prix littéraire de la DLVA dont nous remettrons le prix le 25 novembre à la médiathèque de Manosque, ou plutôt au centre littéraire et culturel Jean Giono. Donc ce prix, c'est une nouvelle formule. On avait déjà un prix des médiathèques, mais là on l'a bien remanié. C'est le prix de la DLVA qui intègre toutes les médiathèques petites et grandes du territoire Durance, Luberon, Verdon, agglomération. Le prochain rendez-vous, c'est bientôt, c'est samedi à 17h, samedi 21 octobre à 17h à la médiathèque de Manosque. Nous recevrons la compagnie et autres choses inutiles qui vont nous faire des lectures des 4 livres qui restent en lice pour ce prix. Donc c'est le 21 octobre à 17h. Ils sont déjà passés dans une autre médiathèque et on nous a vraiment conseillé d'y aller. C'est donc la compagnie et autres choses inutiles qui nous liront des extraits des 4 livres. Alors les 4 livres qui restent, donc pour lesquels vous pouvez voter, dès à présent, enfin, dès à présent. C'est le livre de Lucille Borde,
86 années blanches. Les étoiles s'éteignent à l'aube de Richard Vagamez, un auteur canadien. Le tambour des larmes de Bérouk, qui lui est mauritanien. Et le portefeuille rouge de Anne de la Flotte Medevi, qui elle est française. Ces quatre auteurs, donc moi, Richard Vagamez, qui hélas nous a quittés alors qu'on l'avait déjà sélectionné, donc c'est sa traductrice qui viendra, seront présentés lors d'ateliers et de réceptions des auteurs, donc le samedi 25 novembre au Centre culturel et littéraire Jean Giono. Donc de 10h30 à 12h, vous pourrez au choix faire un atelier d'écriture avec Lucille Borde, faire un atelier de reliure avec Anne de la Flotte Medevi et Hélène Loger, qui est une relieuse chevronnée. Vous pourrez rencontrer Christine Raguet, qui est donc la traductrice de Richard Vagamez, et rencontrer Bérouk, qui est donc l'auteur mauritanien, auteur du Tambour des larmes, lors d'une rencontre que nous allons animer avec Sylvie. Et la cérémonie de remise du prix aura lieu à 14h30, au centre Jean Giono.
Alors à 14h30, ça sera donc la fête de la remise du prix. Il y aura des lectures d'extraits des quatre livres. Alors là, ça ne sera pas la compagnie qui lira des extraits. Ce sont des lecteurs des médiathèques qui liront les extraits des livres, des extraits qui les auront le plus marqués. Puis viendra la remise des prix aux auteurs et le tirage au sort des gagnants parmi les lecteurs et parmi les médiathèques. Il y a une somme qui est attribuée pour ces prix.
Voilà, les lecteurs en fait gagnent à peu près entre 35 euros ou 70 euros de prix pour chez le libraire, la librairie du Poivre d'Âne, donc en achat de livres. En fait, c'est un bon d'achat de livres.
Et évidemment, la rencontre se terminera par une vente dédicace organisée par la librairie au Poivre d'Âne. Et tout ça se déroulera au Centre culturel et littéraire Jean Giono.
Voilà, alors si, puisqu'on parle du Centre Jean Giono, n'hésitez pas à venir visiter l'exposition qu'il y a en ce moment, que nous avons fait en collaboration, donc que ce soit la médiathèque et les membres du Centre, sur le thème de Giono. En fait, et les animaux, ça c'est le thème un petit peu basique, mais plus exactement la ménagerie énigmatique de Jean Giono, ou comment les animaux et sous quelle forme et quel est leur symbole, quel est leur rôle dans les romans de Jean Giono.
Voilà, notre émission s'achève. Nous remercions Amandine, notre technicienne, et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau. Une nouvelle émission
des lecteurs sous les toits.
Au revoir.
Merci à vous, une bonne journée.
Merci, au revoir.